est aujourd'hui le début de notre rendez-vous mensuel avec le CERTAM, le Centre d'évaluation et de recherche sur les technologies à destination des aveugles et malvoyants. Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Carpanini nous ont rejoints. Bonjour vous deux.
Bonjour Benjamin.
Merci
Bonjour.
D'être des nôtres. Alors aujourd'hui on parle du CISEN, c'est un salon, vous êtes allé aux États-Unis pour assister à ce CISEN.
Voilà, alors le CISEN en fait, déjà on va peut-être un petit peu parler de ce que c'est que le CISEN.
Parce que j'avoue que c'est mal connu de nous, en tous les cas de moi.
Hein. Absolument, non, mais même de beaucoup de gens en France. En fait, c'est un salon qui se tenait pour la 26e fois, donc on voit que c'est quand même pas quelque chose de tout récent. Et donc c'est un salon où, je dirais, tous les acteurs du monde des nouvelles technologies et d'éducation autour de la déficience visuelle à l'origine se retrouvent donc une fois par an pour aborder tout un tas de sujets autour des nouvelles technologies et donc de la déficience visuelle.
Ça veut dire qu'il n'y a pas que nous et les Américains qui nous occupons des déficients visuels. Ça veut dire qu'il y a la haute technologie s'est emparée de beaucoup de pays.
Bah, la haute et la basse technologie, je dirais que c'est toute. En fait, c'est tous les moyens de compensation du handicap visuel, quel qu'il soit. Et effectivement, du coup, les nouvelles technologies sont extrêmement présentes puisque, évidemment, c'est ce qui évolue sans doute le plus. Et c'est ce qu'on constate en tout cas en termes d'offres. Donc, on y trouve aussi bien des gens qui vont donner des conférences sur des sujets particuliers, sur comment en termes d'éducation on peut aider les enfants par exemple à se scolariser, comment dans l'emploi on peut adapter des postes, etc. Donc il y a beaucoup de sujets de conférences, et en marge de ces conférences, mais quand je dis en marge c'est presque péjoratif parce qu'en fait c'est un grand salon d'exposition, il y a donc un salon où il y a beaucoup de fabricants et de distributeurs qui présentent concrètement leurs produits, et c'est ce qu'on va essayer de vous faire vivre aujourd'hui pour vous raconter un petit peu quelles sont les tendances qu'on a vues, ce qu'on a pu constater, ce qu'on peut attendre sur le marché européen dans les mois qui viennent, etc.
Des nouveautés, beaucoup de choses qui vous ont étonné, émerveillé, intéressé?
Très honnêtement, si on reste dans l'étonnement et dans l'émerveillement, non. Il faut
être... Mais ça, c'est parce que vous êtes blasé, vous aussi. Vous avez tant vu de choses aujourd'hui.
Non, je pense pas que ce soit qu'on soit blasé. C'est juste que on cherche toujours un petit peu l'étincelle, le produit qu'on n'aurait jamais vu, le truc on se dit oh, « Ah oui, ça, j'y avais jamais pensé, c'est excellent. » Là, ce qu'on a vu, il y a des innovations. Hein, ça veut pas dire que les gens n'innovent pas, évidemment. Mais il n'y a pas un produit révolutionnaire, miraculeux, quelque chose vraiment où on soit dit « Ah bah tiens, ça, je l'avais jamais vu nulle part. » En revanche, il y a effectivement quand même de grandes tendances. Il y a des produits qui arrivent sur le marché, tant de la basse vision que de la cécité, qui pourront, à mon avis, apporter un certain nombre de confort, d'agrément, en tout cas, aux utilisateurs. Et c'est ce sur quoi nous, on a envie aujourd'hui là de revenir.
En fait. Ce que vous avez vu, en général, ce sont des produits qui sont déjà en vente ou ce sont plutôt des prototypes ?
En grosse majorité, ce sont déjà des produits en vente. Comme c'est un temps fort de l'activité mondiale autour des nouvelles technologies de la déficience visuelle, ils venaient tout juste d'être mis en vente, ou ils allaient être mis en vente une semaine ou deux après le CISEN. C'est pour vous montrer quelle est l'importance de ce salon. On y a cependant vu quelques prototypes de machines. Mais c'est non, pour la plus grosse partie, ce sont déjà des produits en vente ou qui allaient l'être dans les jours qui ont suivi le CISEN. En fait.
C'est facile quand on est un petit Français comme ça d'aller au sein d'un salon tel que celui-là et d'arriver à se faire expliquer. Peut-être êtes-vous un linguiste distingué, par conséquent connaissez-vous bien l'anglais, l'américain, et n'avez-vous pas eu de mal. Mais je veux dire, c'est simple.
Je crois que Jean-Pierre et moi, on n'a pas la prétention d'être fluent, comme on dit. C'est sûr que pour arriver à se faire comprendre de nos homologues, il faut de toute façon passer par l'anglais, et parce que c'est la langue de toute façon du pays qui nous accueille, en l'occurrence. À partir du moment où on arrive à franchir la barrière de la langue, ça pose aucun problème. Les gens sont même plutôt contents de voir peut-être d'autres horizons, peut-être aussi parce qu'ils espèrent à travers nous comprendre un petit peu ce que nous on peut attendre, quels sont les besoins spécifiques de certains marchés que eux ne maîtrisent pas, par exemple. Donc les discussions en tout cas sont assez faciles, sont assez
plutôt simples. Vous avez vraiment pu profiter de ce salon.
pour nous, c'est toujours le moment, en plus, de rencontrer pour certains directement les fabricants. Et pour le CERTAM, dans la mesure où on essaye de travailler sur les produits avec les distributeurs, mais aussi avec les fabricants, ça nous permet d'avoir des contacts directs avec eux et de pouvoir en bénéficier tout au long de l'année, par la suite, notamment lorsqu'il y a des nouveaux produits qui arrivent sur le marché, lorsque nous, on fait des évaluations, qu'on cherche à en savoir plus sur tel ou tel point, etc. Donc oui, pour nous, c'est d'abord l'information immédiate qu'on peut récolter, mais c'est aussi travailler en réseau, discuter avec les gens, se faire connaître, l'activité de l'association Valentin U dans les nouvelles technologies et essayer d'avancer.
Ça veut dire que les fabricants également vous écoutent et vous pouvez donner de la voix et par là même, vous pouvez tendre à ce que certains produits connaissent des améliorations auxquelles vous pourriez penser?
Il faut pas nous donner l'envergure qu'on n'a pas. Lorsqu'on va au Sisson, on est tout petit. On est des tout petits Français.
Oui.
On est des petits Frenchies. Cela étant, une chose est sûre, c'est qu'on est suffisamment peu dans le monde à avoir ce genre d'activité d'évaluation des produits. À ma connaissance, aujourd'hui, il y a sans doute quelque chose comme 6 ou 7 structures qui le font.
Donc malgré tout, sur 6 à 7 représentants de ce type de manifestation, vous pouvez vous faire entendre.
En tout cas, notre parole les intéresse parce qu'on n'a pas le regard d'un distributeur ou on a le regard là vraiment des usagers.
Très bien, vos paroles nous intéressent, nous aussi également. Hein, c'est pourquoi on va vous retrouver bien volontiers, vous qui représentez le CERTAM, vous Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Carpanini. On va le faire après quelques notes de musique. Jean-Pierre Carpanini et Fernando Pinto da Silva représentent le CERTAM, le Centre d'évaluation de recherche sur les technologies à destination des aveugles et malvoyants. Et nous partons pour les États-Unis, là, sérieusement. Nous allons visiter avec vous, Jean-Pierre Carpanini. Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour.
Nous allons visiter avec vous une partie de ce salon, parce que vous avez décidé de nous parler des nouvelles machines à lire.
Oui, tout à fait. Donc, on a vu au salon du CISAN 2011, par rapport notamment au précédent salon, qu'il y avait une nouvelle tendance concernant ce type d'aide technique. Donc, je rappelle en deux mots le principe des machines à lire. Jusqu'à présent, vous aviez un système autonome, donc qui n'utilisait pas d'ordinateur et qui regroupe un scanner à plat avec un boîtier comportant des boutons permettant de lancer la numérisation d'un document papier et sa lecture automatique par une synthèse vocale.
La machine à lire est indépendante, c'est quasiment un ordinateur à elle toute seule.
Ça regroupe en fait l'électronique d'un scanner à plat, d'un ordinateur et d'une synthèse vocale permettant la restitution sonore du document écrit. Donc c'est généralement très simple d'emploi. C'est utilisé dans les lieux publics, c'est utilisé par les personnes peu technophiles. On a généralement un panneau de commande de moins d'une dizaine de boutons et on va pouvoir donc numériser un document, le sauvegarder, le lire, augmenter le débit de la voix, augmenter le volume, etc.
D'accord.
Donc la nouvelle tendance, c'est la disparition en fait de l'utilisation d'un scanner à plat au profit d'une caméra. Caméras de type de celles qui sont utilisées par les appareils photo numériques. Donc on a des appareils qui sont d'une part beaucoup plus compacts et on a également comme gros avantage une plus grande rapidité de numérisation. Donc on a vu plusieurs produits de ce type là au salon. La société ABC qui est notamment dont certains des appareils sont distribués en France par la société Cessia notamment, propose un produit qui s'appelle l'iPal Vision. Donc c'est un système qui utilise donc une caméra. Donc vous avez, pour essayer de décrire le produit, vous avez une base sur laquelle on va positionner le document. Au-dessus de cette base, vous avez un pied qui va servir de support à la caméra. Donc la caméra étant positionnée à la verticale au-dessus du support. Donc le document dactylographié ou imprimé est positionné sur le support et par l'appui d'une touche qui se trouve sur le boîtier, on va numériser le document et au bout de quelques instants rapides, en avoir une restitution vocale.
C'est toujours une machine indépendante, hein, parce que je vous entendais parler et j'imaginais que déjà on avait quitté ce type de machine indépendante et que par conséquent il fallait en référer à un ordinateur pour que la machine soit complémentaire.
Alors ce principe
et se suffise à elle toute seule.
Ce principe d'utilisation d'une caméra à la place d'un scanner à plat peut être utilisé aussi connecté à un ordinateur. Donc on va remplacer un scanner classique par ce type de produit. Mais là, plus spécifiquement, on parle de machines à lire autonomes, donc qui n'ont pas besoin d'une connexion via un ordinateur et qui sont très simples d'utilisation, donc avec très peu de commandes et qui peuvent être prises en main très facilement par n'importe quel utilisateur.
Donc le gros avantage de cette machine, dont vous allez nous rappeler les références tout à l'heure, c'est qu'elle est beaucoup plus compacte notamment.
Elle est plus compacte.
Elle est plus rapide.
Elle est plus, voilà, la numérisation se fait exactement comme une prise de vue par un appareil photo numérique, hein, donc c'est quasi instantané.
Quasi instantané, oui.
On a une capture complète de la page, donc la numérisation d'une ou de plusieurs pages évidemment est beaucoup plus rapide. Autre chose sur ces appareils, on a souvent la possibilité de connecter un écran et donc on va coupler aux fonctions de lecture de texte les fonctionnalités d'un téléagrandisseur.
Ah oui.
Le document apparaît sur l'écran et on va pouvoir augmenter la taille des caractères, pouvoir modifier la couleur du texte ou du fond, un peu les fonctions qu'on retrouve habituellement sur un téléagrandisseur.
Ça, c'est une nouveauté par rapport aux machines à lire d'antan, on va dire.
Certaines machines permettaient la connexion d'un écran, mais c'était très peu utilisé. C'était d'avant. On peut pas dire. On pouvait pas associer ça à des fonctions de lecture.
Disons que c'était pas forcément destiné à quelqu'un qui avait des problèmes de basse vision.
De basse vision.
Par exemple. On sent que la tendance va à un appareil qui, d'une catégorie qui était plutôt destinée à des gens qui n'y voyaient quasiment plus, là même pour des gens qui ont encore un reste visuel, leur permet quand même d'accéder à l'information beaucoup plus facilement.
Donc c'est un vrai plus.
Pour citer juste quelques appareils, parce que j'ai nommé donc l'iPal Vision, on a également le Clear Reader Plus d'Optelec, hein, qui fonctionne sur le même principe. Donc on retrouve différents fabricants. Freedom Scientific aussi propose sa machine à lire Sarah en caméra édition. Donc c'est toujours sur le même principe, une caméra plutôt qu'un scanner à plat.
Très bien. Alors, je vous ai entendu citer un certain nombre de références. Je présume que sur votre site internet, dont on rappellera les coordonnées tout à l'heure, on saura tout.
Il y aura prochainement effectivement un dossier sur notre visite au Sisson qu'on publiera, on l'espère, début du mois de mai.
Très bien. Ben, nous, on est des vénards parce que bien avant l'édition de ce dossier, on va pouvoir parler du Sisson grâce à Fernando Pinto da Silva et à Jean-Pierre Carpanini qui représente aujourd'hui le CERTAM sur l'antenne de Vivre FM. Aujourd'hui, le Centre d'évaluation de recherche sur les technologies à destination des aveugles et malvoyants a décidé de nous faire visiter un salon américain qu'ils ont visité ou qu'il a visité, si on parle du CERTAM. Ce salon s'appelle le Sisson. Et pour nous en parler, Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Carpanini sont avec nous. Alors Jean-Pierre, vous avez vu dans ce salon également des téléagrandisseurs.
Oui, tout à fait. Donc,
nouvelle génération, on peut dire.
Alors, il y a une évolution, et là aussi, c'est une tendance par rapport à ce qu'on a pu voir l'an dernier. Le discours des fabricants ou des distributeurs en 2010 était que les systèmes vidéo, donc les téléagrandisseurs avec des caméras haute définition, n'apportaient pas grand-chose en plus par rapport au surcoût de ces produits, de ces technologies. En 2011, on voit qu'il y a une tendance complètement différente, très certainement liée à la baisse de prix de ces nouvelles technologies. Et donc chaque fabricant propose maintenant des téléagrandisseurs monobloc, donc avec une caméra, une optique en haute définition.
Et la haute définition, pour vous, Jean-Pierre, vous voyez vous-même ? Non, vous ne voyez pas.
Oui, je vois.
Vous voyez, alors, ça apporte quelque chose de plus, cette haute définition, justement ?
Alors, je vais avoir une réponse un petit peu mitigée. Ça va dépendre dépendre de l'utilisateur. Donc pour une personne voyante comme moi, oui, c'est flagrant. On a sur des éléments nécessitant des détails, un niveau de détail important. Si on place un timbre
bien devant le micro, Jean-Pierre.
Oui, si on place un timbre poste ou une pièce de monnaie sur le plateau et qu'on utilise un taux d'agrandissement relativement élevé, les détails seront visibles en haute définition alors qu'ils ne l'étaient pas avec une caméra classique.
Mm-hmm. Pour une personne malvoyante.
Alors, c'est le principal intérêt, évidemment.
Bien sûr. Bien sûr.
Par des personnes malvoyantes, ça va dépendre, en fait, de la pathologie visuelle.
D'accord.
Il y a énormément de critères qui rentrent en ligne de compte. Donc, pour certains utilisateurs, effectivement, ces technologies-là, ont un intérêt. Pour d'autres, beaucoup moins. Ce qui est sûr, c'est que ça n'enlève rien. Donc, les bénéfices apportés par un téléagrandisseur utilisant une caméra classique, on les retrouve forcément avec un appareil utilisant les technologies HD.
En fait, ce qui était très limitant jusqu'à présent, c'était plutôt les coûts, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on était sur de l'HD, c'était une technologie émergente, donc du coup, ça
forcément, ça coûtait bonbon.
Et comme toutes ces technologies qui s'amortissent au fur et à mesure des usages qu'on en fait dans le marché standard, évidemment, du coup, racheter ces capteurs-là, racheter ces technologies-là, du coup, ça coûte beaucoup moins cher un an plus tard. Ce qui fait que tout le monde en fait parce que du coup, le niveau du produit s'élève et les coûts s'abaissent. Donc, ça, c'est la loi du marché.
Alors, ça constitue quand même l'essentiel de l'amélioration de ces téléagrandisseurs, cette haute définition ou pas?
Alors, disons que chaque fabricant de téléagrandisseurs propose aujourd'hui au moins un modèle en haute définition. Donc, que ce soit le coréen IMS, que ce soit la société canadienne Humanware, que ce soit Optelec. Donc, chaque fabricant a au moins un modèle en haute définition. Et on peut supposer que cette technologie va remplacer totalement l'utilisation d'une caméra classique.
Mm-hmm.
Donc voilà, donc c'est un peu la tendance forte au niveau des téléagrandisseurs fixes. Au niveau des loupes portables, on a vu moins de nouveautés, si ce n'est peut-être des applications sur smartphone qui vont essayer de donner des fonctionnalités, les mêmes fonctionnalités qu'on pourrait avoir avec une loupe portable directement sur son smartphone, donc en utilisant l'optique et l'écran du smartphone.
Donc vrai progrès.
Vrai progrès, on n'a pas le niveau de performance qu'on peut avoir avec des appareils dédiés. C'est lié très certainement aux qualités des optiques utilisées par les smartphones. Hein. Donc on n'a pas le même niveau de performance, on n'a pas les mêmes possibilités, mais on sent effectivement qu'il y a de plus en plus d'applications qui permettent d'avoir ce type d'usage. Le gros avantage, c'est qu'un téléphone portable, on l'a effectivement toujours avec soi. Donc on a des solutions sur iPhone, bien entendu, et on en a sur des plateformes comme les plateformes Android.
Donc malgré tout une belle moisson hein, de téléagrandisseurs au sujet de ces technologies, il se passe quand même des choses.
Il se passe des choses, donc c'est pas comme l'indiquait Fernando, hein, on n'a pas vu de produit qui soit entre guillemets révolutionnaire, mais on sent une évolution et on sent des tendances qui deviennent qui se pérennisent. En fait,
c'est ça, puis jusqu'alors qui n'était pas apporté, j'allais dire, de toutes les bourses, de tous les budgets. Aujourd'hui, ça reste, c'est devenu un peu moins cher.
Bah, et puis pour prendre juste un tout petit exemple pour terminer là-dessus sur ces histoires de téléagrandisseurs, le fait d'avoir un logiciel comme Zoom Reader par exemple qui permet de s'installer sur un iPhone et de transformer votre iPhone en loupe électronique avec des fonctions
si
de photographie, on va bien quand même si c'est une technologie éprouvée et des logiciels éprouvés, on va quand même aussi vers du plus d'appareils, même avec des appareils standards sur lesquels on peut installer des logiciels spécifiques en fait. Donc on va bien vers une convergence de toutes ces technologies pour rendre cette utilisation la plus nomade possible et la plus fréquente possible.
Le CERTAM est avec nous, le CERTAM qui est le centre d'évaluation de recherche sur les technologies à destination des aveugles et malvoyants. Aujourd'hui, Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Carpanini nous parlent d'un salon américain qu'ils ont visité qui s'appelle le CISON. On en reparle justement après quelques notes de musique. c'est notre rendez-vous mensuel avec le CERTAM, le Centre d'évaluation et de recherche sur les technologies à destination des aveugles et malvoyants. Un CERTAM qui est allé à la rencontre des nouvelles technologies, des nouveaux produits au CISON, aux États-Unis. C'était dans quelle ville, Fernando Pino da Silva?
À San Diego, c'était. Mm-hmm. Donc en Californie, un peu au sud de Los Angeles.
D'accord. Plein de produits nouveaux concernant la téléphonie, Fernando?
Alors pas mal, effectivement. En 2010, on avait été assez surpris de l'absence remarquée de tout ce qui était iPhone, iPad, iPod. Donc on était, voilà, pour le moment.
Un petit peu frustré.
Oh, frustré non, mais surpris parce qu'Apple avait fait des choses depuis 2009, donc on pensait les y voir. Et cette année, il faut reconnaître qu'incontestablement, ça a été la grande vedette du salon. Alors même qu'Apple n'exposait pas d'ailleurs, mais enfin, je dirais que dans toutes les conférences, sur beaucoup de stands des exposants, il y avait de l'iPod.
Il y avait des produits à l'appel.
Ah oui, il y en avait beaucoup.
À l'appel, on peut dire.
Absolument, à l'appel. Donc tout ça pour dire que sur la téléphonie, effectivement, pas mal de choses autour de l'iPhone. On a évoqué tout à l'heure le logiciel Zoom Reader, donc qui permet de transformer son iPhone, je dirais, en loupe électronique avec des fonctions même d'OCRisation, de numérisation de documents. D'autres applications, pas forcément sur iPhone, mais sur Android par exemple, avec donc le logiciel Mobile Accessibility qui permet de vocaliser et de rendre accessible les téléphones sous Android, en fait. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, Android, c'est un système d'exploitation pour téléphone mobile. C'est un des systèmes qui, aujourd'hui, est le plus couramment
exploité,
absolument. Mmh. Et on n'avait pas la possibilité, lorsqu'on était non-voyant jusqu'à présent, de pouvoir l'utiliser. Il y avait quelques tentatives de petits logiciels, mais qui fonctionnaient quand même pas très bien. Et là, la société espagnole Code Factory a mis au point un logiciel alors qui ne permet pas, il faut être très clair, d'accéder à l'ensemble du téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un système qui va vocaliser en gros 10 grosses applications du téléphone. L'application téléphone, évidemment, tout ce qui est messagerie, certains réseaux sociaux, etc. Mais sorti de ces 10 applications, on ne peut pas accéder au reste des fonctionnalités du téléphone. En revanche, ça permet quand même, du coup, d'accroître le nombre de téléphones qu'un non-voyant peut utiliser. Vous vous souvenez, Benjamin, de la dernière émission qu'on a faite, entre autres, sur l'iPhone, et l'appel que je lançais aussi à ce micro pour je dirais alerter un peu nos auditeurs sur la disparition progressive de téléphones que les non-voyants pouvaient adapter, utiliser. Là, je dirais que c'est une solution. Pour l'instant, elle n'est disponible qu'en anglais. Donc, on était aux États-Unis, tout se tient.
C'est normal, oui.
Mais elle arrive prochainement en espagnol et en français, puisque Code Factory travaille d'ores et déjà à sa mise à disposition en français.
Mais ça veut dire que quand même, ça reste de la technologie qui n'est pas complète, on va dire. Hein. On n'a pas accès à tout et...
Oui et non, c'est-à-dire que ça reste en tout cas une adaptation des nouvelles technologies. Certes, ça ne permet pas d'exploiter votre téléphone en entier. Cela étant, souvenez-vous, Benjamin, que lorsqu'on avait fait notre émission sur le C5 commercialisé par Orange avec sa solution d'assistant vocal, on était dans les mêmes phénomènes. C'est-à-dire que l'assistant vocal donnait accès à une partie des fonctionnalités disponibles sur le terminal mobile, mais pas aux autres. Mmh. Là, on se retrouve, je dirais, grosso modo, dans la même situation, à ceci près que la solution mise en place par Code Factory permettrait de gérer des terminaux, même de façon tactile, en fait. Et c'est ce en quoi elle est très innovante.
Et on va dire qu'elle est perfectible, alors que Orange, je ne dis pas que ce n'est pas perfectible, mais ça a été fait pour un certain public. On peut imaginer que Code Factory travaille aujourd'hui à une exploitation plus grande et plus complète de ces téléphones, j'imagine.
Tout à fait, d'autant que là, c'est la première version de cette solution. Il faut rappeler, puisqu'on a pris donc la solution d'assistant vocal un petit peu comme point de comparaison, que cette solution-là, elle en est déjà à sa troisième version. Donc effectivement, je pense que les produits vont s'améliorer, les gestuels vont sans doute s'améliorer aussi. Maintenant, moi, je le prends plutôt comme quelque chose de positif que comme quelque chose de restrictif et négatif.
C'est-à-dire on parle du vase à moitié plein quand même, et pas du vase à moitié vide.
D'autant plus que ce système, avant cette solution, n'était pas exploitable. Donc entre quelque chose qui me permet d'exploiter à minima un système et de façon efficace et rien, je préférerais toujours quelque chose qui me permettra quand même
absolument
de
l'exploiter. Voilà un homme sage que Fernando Pinto da Silva. D'autres appareils, d'autres technologies vous sont apparues?
On a vu aussi les nouvelles versions de MobileSpeak, donc le logiciel que beaucoup d'entre nous connaissent, qui permettent de vocaliser entre autres les appareils sous Symbian. Cela étant, rappelons que Symbian est voué à disparaître très prochainement, donc ce sont des évolutions importantes, mais qui en tout cas ne préparent pas nécessairement l'avenir, puisqu'on sait que le système est déjà vieillissant.
On ne peut pas dire Symbian, priez pour nous.
Non, on ne peut certainement pas le dire.
Très bien.
Voilà, on constate quand même pas de solution en vue, en tout cas officielle et concrètement utilisable pour rendre les téléphones sous Windows Phone accessibles. Là, vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'Android en disant que c'était un premier pas pour les rendre accessibles sous Windows Phone. Aujourd'hui, on n'a strictement rien vu.
Ouais. Bon, bah, écoutez, puisque vous n'avez rien vu, vous ne parlerez de rien. En revanche, je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à nous dire concernant ce salon Season. On va vous retrouver pour le faire après quelques notes de musique. Nous sommes avec le CERTAM, c'est le Centre d'évaluation de recherche sur les technologies à destination des aveugles et malvoyants. Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Carpanini sont avec nous. Alors, on a beaucoup parlé évidemment de ce salon, puisqu'il a, il traite des technologies pour les déficients visuels. Alors quand on parle de déficients visuels, quand on parle d'aveugle, on parle du braille. Il n'a pas complètement disparu non plus le braille.
Non, pas du tout. Il est même toujours présent. Après, il n'est pas particulièrement innovant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution en braille sur les produits braille. Je dirais, pour conclure un peu sur ces problématiques, on a vu pas mal de produits chez des Coréens. Donc on a maintenant des petits bloc-notes 18 caractères qui apparaissent à des prix évidemment moins élevés que ce qu'on peut constater d'habitude. On a vu une petite plage braille connectable sur téléphone mobile, par exemple, de 16 caractères. Donc c'est très court.
Ah, c'est court.
Mais évidemment, pour afficher du texto, pour afficher des petites choses comme ça, ça peut suffire. Donc chez les Japonais, de Nippon Telesoft, par exemple. On a vu des innovations majeures, enfin des évolutions, mais plutôt des produits chez certains fabricants asiatiques qui n'existaient pas particulièrement dans leur gamme, en fait. Et évidemment, du coup, ce sont des produits qui vont coûter quand même globalement moins cher que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent sur le marché.
On a une fourchette de prix comme ça. Ce sont d'abord des articles. Si vous nous en parlez, c'est que ce sont des articles qui sont appelés à être vendus en France, j'imagine.
A priori, oui. Après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que nous, allant aux États-Unis, comme on l'a fait là, on voit l'état du marché aux États-Unis. Ce que ces fabricants cherchent après, ce sont des débouchés en France via des distributeurs. Pour la petite plage de 16 caractères japonaise, je ne sais pas si elle sera distribuée. En revanche, pour le petit bloc-notes braille de 18 cellules qu'on a vu là-bas chez les Coréens de IMSS, on sait déjà qu'ils seront distribués par la société Visiol ici en France, par exemple.
On a une idée de prix comme ça, qu'on s'imagine un petit peu ce que ça peut coûter?
J'ai cru comprendre que ça serait aux alentours de 4000 euros, je crois, avec tout un tas d'options.
Oui, mais quand même, ça fait...
Mais quand même, oui, ça fait quand même...
Ça fait cher le point, ça fait cher le point braille.
Un point à ceci près qu'après, il y a tout un tas de fonctionnalités internes qui sont incluses dedans. Mais je dirais que pour ces catégories de bloc-notes, c'est quand même une petite révolution, mine de rien. Et toujours sur le braille quand même, on a vu aussi, alors là ça concerne un public beaucoup plus restreint, on a vu de nouvelles embosseuses, donc des imprimantes.
Des imprimantes,
braille,
oui.
En fait, voilà. Avec notamment la Braille Box, alors qui est une espèce de cube, on va dire, en plexiglas, enfin voilà. Donc une machine de production intermédiaire pour des petits centres de transcription, pour par exemple des classes type des S3AIS, des choses comme ça, donc des structures d'appui à la scolarisation qui permettraient d'embosser 800 pages à l'heure.
C'est pas mal, ça.
C'est pas mal. Le modèle serait proposé aux alentours, je crois, de 10 000 ou 11 000 euros en France, ce qui est une coquette somme déjà, mais pour des outils de production de ce volume-là, en termes de nombre de pages à l'heure, c'est pas si cher que ça. Enfin, je veux dire, en comparant évidemment avec le reste de ce que fait le marché.
Oui, bien sûr,
marché,
mais quand on fait la comparaison entre les 4000 euros d'un terminal de 18 caractères et une embosseuse à 10 000 euros, moi je préfère l'embosseuse. C'est sûr qu'au bout de mon téléphone portable, ça n'aura pas le même effet.
Voilà, c'est pas forcément les mêmes publics, Benjamin.
C'est vrai.
D'un autre côté, on a du papier, et voilà. Non, mais je pense qu'en tout cas, enfin, là où c'est quand même intéressant de le signaler, c'est que c'est une machine qui est complètement redesignée, et qui a l'air très séduisante aussi par le peu de bruit qu'elle fait, notamment quand elle embosse du papier, ce qui est quand même souvent quelque chose de gênant, notamment pour les gens qui utilisent voilà ces machines au quotidien.
Ça c'est pas mal. Voilà. Quelques mots encore sur ce Seasun ou quelques appareils que vous auriez vus.
Oh, quelques bricoles. On a vu notamment un nouveau fabricant de synthèse vocale d'origine polonaise. Qui donc lui propose voilà des synthèses y compris en français qui devraient arriver sur le marché je dirais courant mai début juin par là.
Très
ça
bien.
Avait l'air séduisant mais bon ça il faut voir si l'essai est transformé. Et puis voilà.
Enfin,
puis,
voilà.
Quelques nouveaux lecteurs d'écran qu'on voit ici et là.
Mais rien de révolutionnaire, vous le disiez.
Non, des évolutions, mais pas d'innovation.
Des évolutions, mais pas de révolution.
Voilà, exactement.
Alors, Fernando Pinto da Silva, il nous reste à donner les coordonnées du CERTAM.
Alors, le CERTAM, vous pouvez le retrouver sur www.certam-avh.com. Et n'oubliez pas nos permanences téléphoniques les mardis et jeudis après-midi au 01 44 40. 27 à l'association Valentin Huy.
Merci Fernando Pinto da Silva, merci Jean-Pierre Carpanini. Nous vous retrouverons avec grand plaisir le mois prochain, ce sera le 20 mai.